Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je m'appelle Julien Borloo, je suis psychologue à Lausanne. Et aujourd'hui, eh bien, on est de retour avec une interview. Et puis, c'est une interview de quelqu'un qui s'est déplacé depuis Genève. Donc déjà, on peut la remercier d'avoir fait le déplacement. Aujourd'hui, on va parler avec Lucrezia Bordi, qui est nutritionniste à Genève et... Alors, elle a tout un champ de compétences, mais on va se concentrer principalement aujourd'hui sur les liens entre l'alimentation et la fertilité. Et donc, apprendre comment, en fait, prendre soin de ses spermatozoïdes, de ses ovocytes, et puis, comment favoriser, finalement, les chances d'une grossesse. Donc, Lucrezia, bienvenue.
Oui, merci Julien alors pour cette invitation aujourd'hui. Je suis très contente de pouvoir partager mes conseils avec ta communauté et avec ceux qui écoutent ces podcasts. J'espère pouvoir vraiment délivrer les maximums de conseils pour nos couples en désir d'enfant et pas que, parce qu'on va voir en fait que ces types d'alimentation un peu pour améliorer sa santé hormonale, c'est finalement une alimentation qui convient à tout le monde. Moi, je suis nutritionniste, du coup, je suis spécialiste de la santé féminine. C'est vrai que j'ai choisi un peu de me spécialiser dans ça sur cette niche parce que en tant que femme, je pense que je me trouve un peu plus proche de mes patientes quand elles ont des objectifs que je ressens aussi un peu à moi. J'ai l'habitude de travailler avec des femmes vraiment pendant toute leur période de vie, dès l'adolescence jusqu'à la grossesse, la ménopause, les choses qui peuvent se passer entre cette période-là. Et j'essaie de les aider un peu au quotidien comme je peux avec mes conseils en nutrition, en micronutrition. Et moi, je trouve qu'il y a une chose géniale de suivre des femmes dans ces démarches. Et par exemple, comme on va aborder ces sujets aujourd'hui, c'est par exemple voir qu'elle arrive à concevoir finalement quand c'est un peu plus compliqué. Pour moi, c'est vraiment une très belle satisfaction. Et c'est ça aussi, je pense, qui me pousse à encore vouloir me spécialiser plus dans ça et aller vraiment aider ces types de femmes-là.
OK, donc c'est vrai que c'est des décisions, des actions qui changent une vie, qui en créent surtout une.
C'est ça.
Donc c'est vrai que ça doit être... Alors, je pense que ça peut aller dans les deux sens. Hein. Autant ça peut être des fois difficile quand... Malgré ça, ça fonctionne pas. Mm-hmm. Autant j'imagine que quand tout d'un coup ça peut aboutir, c'est vrai que ça doit être des super beaux moments, quoi.
C'est ça, exactement.
Par où ? Parce que je trouvais intéressant, j'ai vu pas mal de nutritionnistes, déjà quelques-unes qui sont passées sur ce podcast. Mm-hmm. Et on était plutôt sur des aspects plutôt généraux. Je trouvais intéressant d'aller sur la fertilité, mm-hmm. déjà parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Et puis... Aussi, je sais que si je regarde les statistiques un peu des gens qui me suivent, qui écoutent le podcast, alors il y a un peu tout un panel, mais le haut du panel, c'est toute la tranche 25-35 ans. Mm-hmm. Donc, j'imagine que ça va parler déjà à pas mal de monde. Quelqu'un qui vient consulter, parce qu'il y a un désir d'enfant, par où tu commences ?
Alors, déjà, il faut vraiment se rappeler qu'il n'y a pas que la nutrition à prendre en charge dans ces cas-là. Ce qui est important, en fait, aussi, c'est tous les côtés un peu psychologiques, la gestion du stress, également tout ce qui est activité physique. Du coup, c'est vrai que ce que je conseille aussi, c'est d'avoir une hygiène de vie qui est quand même sain, optimale. Et aussi, tout ce qui est limitation, éviter un peu d'être exposé à tous les perturbateurs endocriniens. C'est vrai que je vais parler de cet argument-là pour ensuite me lier à tout ce qui est nutrition. Parce que quand on parle d'alimentation, on sait que c'est quelque chose que on introduit dans notre corps. Du coup, on a des nutriments, on a des minéraux, on a des vitamines. On sait que c'est quelque chose vraiment qui est dans nous. Mais même tout ce qui est notre environnement, tout ce qui est autour de nous, a une importance vraiment nécessaire. En fait, c'est nécessaire de pouvoir contrôler tout ce qui est autour de nous avant encore de penser à ce qui après va rentrer dans notre organisme. Alors, tout ce qui sont les perturbateurs endocriniens sont des objets, sont des ondes, sont des produits, tout ce qu'on peut avoir à contact avec notre corps ou pas. Mm-hmm. C'est améliorer cette exposition, c'est faire attention aux tout produits qu'on utilise par exemple pour les ménages dans la maison, c'est limiter toute l'exposition aux écrans et à tout ce qui est téléphone. Par exemple, moi, je conseille toujours de ne pas avoir les téléphones sur la table de chevet quand on dort, d'essayer d'éteindre un peu les Wi-Fi aussi la nuit si possible. Et pour les hommes aussi, particulièrement, ne pas garder les téléphones dans la poche. Ça va être aussi faire attention à tous les produits qu'on utilise au quotidien, même pour notre soin, le soin de corps, pour les cheveux, pour la peau, pour les ongles, qui vont du coup rentrer finalement en contact avec nous. Et aussi choisir du coup une alimentation équilibrée, saine, mieux sur bio, avec des nutriments, avec des aliments qui ont été choisis avec soin, pour éviter justement tous ces polluants qui pourraient avoir un impact à niveau hormonal.
Et ça, comment, par où on commence par rapport à ça ? Parce que j'imagine, c'est hyper intéressant. J'imagine que les gens, ils arrivent chez toi et ils se disent « Bon, bah, on va tout de suite commencer par parler, voilà, qu'est-ce qu'on doit manger, quel régime ?» Et puis, le premier truc que tu leur dis, c'est « En fait, non, c'est les appareils que vous avez chez vous, les ondes, les produits. » Des fois, je pense que ça demande un audit presque, tu vois, de tout ce qu'on a chez soi, que ce soit les cosmétiques, les produits ménagers, etc. Par quoi on commence ?
Alors, moi, je dirais vraiment tout ce qui est téléphone, c'est quelque chose qu'on a, on est vraiment en contact tout le temps. On est tout le temps sur nos téléphones, on est tout le temps obligé à être devant des écrans. Alors, au moins la nuit, moi, je dis toujours, il y a des petits réflexes en fait à adopter, comme je disais tout à l'heure, voilà, éteindre les téléphones, faire attention à ne pas être trop devant l'écran, essayer de prendre des pauses par exemple le long de la journée, choisir avec soin, lire les étiquettes et par rapport à les aliments et par rapport à tous nos soins qu'on peut utiliser, mais vraiment juste c'est dire que on sait qu'on va être exposé de toute façon à quelque chose qui est polluant, mais délimiter au maximum ce qu'on peut faire dans notre environnement, dans notre maison, par exemple, et commencer par là et ensuite voir un peu à l'extérieur comment, comment on pourrait aussi limiter toute cette exposition néfaste.
Moi, alors c'est quelque chose que j'ai un peu commencé à faire, alors pas spécialement en pensant aux perturbateurs endocriniens, mais plus à, voilà, à savoir finalement qu'est-ce que j'ingurgite. J'utilise l'application Yuka. J'imagine que tu l'utilises aussi. Je n'ai pas de doute là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres choses parce que tu vois, tu dis lire les étiquettes, mais souvent, c'est incompréhensible. C'est typiquement ça. Des produits cosmétiques ou de nettoyage.
Non, c'est sûr que Yuka, c'est une très bonne application. Ça aide ceux qui ne savent pas forcément lire les étiquettes à bien évidemment pouvoir un peu s'est retrouvé parmi les produits. Moi, ce que j'ai fait en consultation, c'est vraiment expliquer à la personne comment lire et interpréter une étiquette pour qu'on sache vraiment qu'est-ce qu'on est en train de manger, les taux de sucre, où ça a été fait. Par exemple, même tout ce qui est aliments qui viennent de produits animaux, où ils sont nourris, comment, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils ont mangé. Et ça, c'est quelque chose de vraiment nécessaire à connaître.
Donc là, bah, tu nous parles de l'environnement, puis de l'environnement dans les produits, les appareils, etc. Maintenant, après, tu t'enchaînes avec quoi quand tu fais une consultation par rapport à la fertilité, au niveau de l'alimentation ? C'est quoi les grandes choses auxquelles penser ?
Voilà, moi j'aime bien partir directement en expliquant à la personne qu'on va faire une grande distinction entre les aliments qui sont bons pour notre fertilité, qui vont être tous les aliments riches en nutriments, et ceux qui vont être un peu moins intéressants, qui vont être du coup pauvres en nutriments. Alors, pour expliquer ces deux catégories, on va devoir réfléchir au fait que les aliments qui sont bons, ce sont des aliments colorés, riches en antioxydants, qui viennent d'une alimentation équilibrée, saine, mais ce sont des produits bio ou quand même de bonne qualité, d'où fait maison, voilà, vraiment tout ce qu'on trouve tel quel dans la nature. Et essayer de limiter un tout petit peu tous les aliments qui peuvent être très pauvres en nutriments, les aliments ultra transformés, avec des cuissons, par exemple, frits, voilà, ou emballés dans du plastique, ou qui viennent de très loin, du coup, qui ne sont pas locaux, ne sont pas de saison. L'alcool, tous les excitants, les boissons un peu à base de caféine, etc. Et bien comprendre un peu ces deux catégories pour se dire, voilà, est-ce que je peux avoir... Enfin, déjà, c'est poser la question, est-ce que l'alimentation que j'ai maintenant est une alimentation pour optimiser ma fertilité ? Quels sont, du coup, les changements que je devrais mettre en place ? Et bien faire cette distinction entre ces deux catégories pour se dire, OK, je sais qu'est-ce qu'il faut que je rajoute dans mon assiette et qu'est-ce qu'il faut que j'ai limite d'eau.
OK. Et si tu vas, si on va précisément un peu dans tout ça, donc tu disais un bon repère pour l'alimentation des aliments qui sont antioxydants, c'est notamment la couleur.
Exactement.
Comme c'est quelle couleur qu'on doit viser.
Voilà. Alors moi je dis toujours visez à avoir un peu l'arc-en-ciel dans votre assiette. Du coup, tout ce qui est très coloré, mais aussi très varié. On pense bien évidemment tout de suite à tout ce qui est fruits et légumes, qui sont très, très riches en antioxydants. On va penser aux baies, à la patate douce, aux légumes à feuilles, des couleurs vertes. Et on va se dire, voilà, il faudrait qu'il soit au moins 50% de l'assiette, du coup, qui donne bien cette couleur à l'intérieur de notre assiette. Et après, on va les choisir de bonne qualité. Du coup, on va les choisir, comme je disais tout à l'heure, plutôt bio si possible, locaux, des saisons, parce que, bien évidemment, ils vont être de plus en plus riches en antioxydants par rapport à tous ceux qui viennent de plus loin et qui ont été trimballés un peu à droite et à gauche avec les transports. Mmh. On va essayer vraiment de n'avoir de manière journalière et à chaque repas. Et peu importe finalement s'il n'y en a pas assez, on peut toujours se rattraper au repas suivant. Mais c'est vrai que de tout ce qu'on peut avoir dans l'assiette, la couleur vraiment variée, c'est ce qui compte en fait. C'est la chose la plus importante.
Ok. Et c'est intéressant parce que je pense que, enfin, bah déjà sur Internet, sur les réseaux sociaux, donc toi tu es aussi très présente là-dessus, on peut vite trouver un peu de tout. Et puis, des fois, on tombe, j'ai l'impression, dans des régimes très stéréotypés où on a l'impression que, finalement, on a une liste de 10 aliments et puis ça, c'est les aliments qui sont sains, puis tout le reste, il faut éviter. Alors que je trouve intéressant, ça enlève aussi beaucoup de pression sur le fait de dire, en fait, c'est important d'avoir un truc varié. Donc, peu importe les légumes, les fruits, mais d'avoir des différentes couleurs, de varier, en fait, tout ça. Ça permet déjà aussi d'avoir peut-être plus de plaisir et pas avoir des trucs très stéréotypés. Mm-hmm. Tu parlais du transport, la conservation. C'est quoi qui... Comment ça s'altère, ces antioxydants
En fait, les antioxydants, sont contenus dans des aliments qui sont très fragiles. Du coup, c'est vrai que les plus on les touche, les plus on les travaille, les plus ils voyagent, etc., les plus ils vont perdre tous ces nutriments vraiment essentiels. Et pas que quand on cherche vraiment à optimiser notre fertilité, mais pour avoir une assiette qui, finalement, ça nous rapporte énormément de vitamines, énormément de minéraux, entre-temps. Et c'est vrai qu'en choisissant des aliments qui sont près de nous, qui sont aussi des saisons, on va limiter tous ces gros voyages, tous ces trajets. Ça fait du bien aussi à niveau écologique. Mm-hmm. Et on va vraiment savoir que la pomme, l'abricot, la pêche qu'on achète à côté, elle va vraiment nous apporter toutes ces qualités, en fait, tous ces bienfaits.
Je pense qu'il y a une info là qui est en train de faire paniquer certains auditeurs ou auditrices, et particulièrement la communauté italienne qui va probablement écouter cet épisode. C'est que tu parles de la caféine.
Oui.
Qu'est-ce qui est problématique avec le café au niveau hormonal, alors au niveau hormonal général, mais aussi au niveau fertilité?
C'est ça. Alors déjà, c'est un argument très, très sensible. Après, moi, je trouve, comme on disait tout à l'heure, que c'est vrai que la flexibilité, le fait de se faire quand même du plaisir, ça reste quelque chose de vraiment nécessaire, même si on est en train de suivre une alimentation pro-fertilité. Et c'est vrai que quand je dis aussi limiter un tout petit peu et plutôt privilégier d'autres aliments, ça ne veut pas forcément dire supprimer de manière définitive, même si on sait que ces aliments-là ou ces boissons-là, la caféine, etc., peuvent avoir un impact pas forcément intéressant sur notre corps. La caféine, ça, tout d'abord, c'est un acidifiant. Du coup, on va vraiment changer un peu à niveau de notre organisme. On va plutôt vraiment chercher un aliment qui est des aliments qui sont basifiants. Du coup, comme on disait tout à l'heure, tous les fruits, les légumes, il peut avoir un peu les mêmes effets qu'on a avec tout un peu les... J'ai dit une bêtise. Pause.
Pas de souci.
C'est un excitant. La caféine, c'est un excitant, ça va être un produit acidifiant, ça va être quelque chose qui apporte pas vraiment des nutriments en fait à notre corps. Et pour certaines personnes qui peuvent être un peu sensibles aussi aux produits qui en contiennent, risque d'être un peu inflammatoire. Oui. Du coup, ça va être vraiment pas un aliment qu'on va mettre à haut de la liste.
Ok. Parler de l'alcool aussi.
Tout à fait.
Ça a le même effet, c'est aussi quelque chose d'assez acidifiant.
Très inflammatoire. Et puis, bien évidemment, on peut se faire plaisir de temps en temps, mais c'est vrai que l'alcool, il nous apporte vraiment des calories vides. C'est des calories, mais sans vraiment des bonnes valeurs nutritionnelles. Enfin, il n'y a rien du tout. Du coup, il n'y a pas vraiment l'intérêt quand on est à la recherche de... on veut optimiser notre fertilité, mettre toutes les chances de côté, parce qu'à ce moment-là, on ne trouvera rien d'intéressant dans ces aliments-là.
Mmh. Alors, je pense que ça, c'est bien de le rappeler, puis de garder ça en tête durant tout le podcast. C'est clair que c'est toutes des lignes directrices où tu parles d'optimiser. Alors, ça veut dire qu'il y a une alimentation et un style de vie optimal, qui est évidemment assez... peu réaliste probablement pour beaucoup de gens, mais ce qui est important, c'est pas forcément d'être dans l'idéal, c'est de voir et de négocier par rapport à soi sur qu'est-ce qui est important, sur quoi est-ce que je décide le café c'est un truc qui me fait plaisir, qui m'apporte différentes choses, ou l'alcool, voilà. Et puis de faire un peu ses choix par rapport à ça.
Exactement. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte d'adopter plutôt un style de vie qui est suivre un protocole spécifique avec tel aliment qui n'est pas forcément bon ou un aliment qui est forcément intéressant, mais vraiment d'avoir un peu tout un maximum de nutriments pour que, même sur le long terme, ça puisse être facile à suivre. Alors, c'est sûr que oui, parfois, il faut se dire, je me permets ces petits plaisirs et tout, mais il n'y a pas de souci.
Et c'est, au final, là, on parle de fertilité, mais finalement, ça, c'est une santé optimale. Donc, ça aura aussi des impacts sur tout le reste, j'imagine.
Exactement.
Sur toutes les fonctions, le sommeil, l'énergie,
Exactement.
Etc.
Et c'est là, c'est vrai, où on rééquilibre un peu à niveau stress, à niveau sommeil, à niveau métabolique. C'est là quand notre corps est bien, qui est aussi... apte à concevoir, en fait, apte à la fécondation. Et c'est vraiment là où on se sent bien, on a notre santé, on se sent bien vraiment dans notre corps, on a tout ce dont notre corps a besoin. C'est là vraiment où on met toutes les chances de côté.
On a parlé d'une moitié de l'assiette.
C'est ça.
qu'est-ce qu'il en est de l'autre moitié de l'assiette?
L'autre moitié. Alors, il y a... il faudrait avoir, du coup, on a parlé, la moitié de l'assiette, les 50%, soi-disant, de ces légumes qu'on va choisir, du coup, des saisons locaux, mieux si bio. Et les autres parties, ça va être un quart, je dirais, plutôt des protéines qui peuvent varier entre végétales, animales. Encore une fois, on va les choisir de bonne qualité. C'est-à-dire, si on va choisir des protéines de type animal, on va vraiment faire attention à leur provenance, comment les animaux sont élevés, comment ils sont nourris, c'est très important. Et aussi, si on veut les avoir, les introduire de manière végétale, bien varier également les sources. On peut les retrouver dans tout ce qui est légumineuses, les céréales complètes, des graines oléagineuses, etc., dans certaines algues. Du coup, pourquoi pas vraiment essayer de varier pour avoir un maximum de tous les nutriments qu'on puisse avoir. À niveau, pour parler de l'autre partie de l'assiette, on va parler des glucides plutôt complexes. Mm-hmm. Du coup, c'est toutes ces parties, je dirais plutôt les féculents complexes, complètes. Du coup, tout ce qui sont céréales complètes, des féculents qui puissent quand même venir des farines qui n'ont pas été trop raffinées, qui n'ont pas été trop traitées. Encore une fois, parce que quand on enlève la partie externe de la graine, c'est là en fait où on perd énormément de nutriments. Mm-hmm. Alors, vaut mieux prendre quelque chose qui a plus une couleur foncée, plutôt qui est blanc, clair, parce qu'on sait qu'il il est déjà passé par pas mal d'élaborations et du coup, on a un peu perdu sa richesse. Ou bien, rajouter encore également de tout ce qui est acide gras. Mm-hmm. Les acides gras de bonne qualité, encore une fois. Il faudrait que ça soit... vraiment, l'assiette, il faut que ça soit composé des quatre parts entre les légumes, les féculents de bonne qualité, les protéines et une partie des matières grasses ou lipides.
OK. Alors là, j'ai mon arbre à questions qui se déploie. tu parlais justement de faire attention à comment finalement les animaux qu'on va manger ont été nourris. Mm-hmm. C'est quoi l'alimentation qu'on va privilégier?
Oui. Alors, pour tout ce qui sont les œufs, par exemple, les poules, etc., si, par exemple, ils ont été nourris aux graines des lins, et qui n'ont pas été en cage, elles vont être, comme on dit, un peu des poules heureuses. Et du coup, elles vont avoir vraiment aussi des œufs de bonne qualité. Pareil aussi pour tous les animaux, c'est important si on arrive à savoir si, justement, ils n'ont pas eu d'hormones, pas d'alimentation riche en conservateurs ou en hormones, justement, pour la croissance. Et aussi également si on a vécu libre ou si on a vécu dans un élevage ou si on est encore une fois dans des cages, voilà, limité, on va dire. Et c'est vrai que ça, c'est de plus en plus des informations qu'on peut avoir si on prend le temps au supermarché ou pour regarder un peu les étiquettes, encore une fois, les produits. Ou bien, voilà, il faudrait se retourner vers tous les artisans, tous les fermes qui se trouvent dans la région, si possible, si on a cette chance, en fait, aussi, les budgets, parce que c'est vrai que choisir la qualité, parfois, ça peut coûter un peu plus cher. Mais si on a la chance de pouvoir choisir cette chair-là, ces aliments-là, on va y aller.
Alors, c'est clair que l'argument économique, il est important. Après, c'est toujours quelque chose de très relatif. Je pense que c'est soit où j'avais entendu quelqu'un, je ne sais plus qui c'était, qui disait soit tu payes le fermier, soit tu payes ton médecin.
C'est ça.
Et je pense que c'est assez vrai. Et je trouve intéressant, finalement, comme en fait, on parle de la nutrition, mais après, en fait, on voit que ça a des implications à plein de niveaux. Tu parlais de l'écologie avant, de consommer local, d'éviter des trajets, déjà. Au niveau écologique, mais aussi ça va se ressentir dans l'assiette. C'est aussi faire travailler l'économie locale. Donc c'est intéressant de se dire aussi que avec nos changements d'alimentation,
on a un impact.
On a un impact positif sur nous, mais aussi sur la planète ou ce qui nous entoure. Mm-hmm. Je pense que ça peut être aussi des motivations pour pas mal de personnes, typiquement au niveau écologique, qui se disent mais je sais pas ce que je peux faire. En fait, avec un truc qu'on fait tous les jours, on peut déjà agir à ce niveau-là.
Exactement. Une autre partie de l'assiette dont on n'a pas parlé, mais qui, à mon avis, elle est vraiment trop importante pour être laissée de côté, c'est vraiment cette présence des acides gras, notamment les oméga-3. Alors, pourquoi j'aime bien un peu faire les focus sur ça? Parce que, par exemple, j'ai énormément de patientes qui viennent me voir en consultation, elles me disent, Lucrezia, j'ai un peu limité, j'ai un peu supprimé tout ce qui est gras, tout ce qui est même justement les bonnes graisses, parce que je veux avoir un poids optimal pour ma santé, parce que je trouve que comme ça, si je me maigris un peu, je vais également optimiser mon corps pour concevoir. Et en fait, il n'y a rien de plus faux. Ça, c'est très important. Toutes ces graisses, alors certes, on va bien séparer les bonnes graisses des mauvaises graisses, mais même les bonnes graisses, il ne faut absolument pas les supprimer. Au contraire, il faudrait vraiment y rajouter dans l'assiette. Quand je parle des graisses, je parle de tout ce qui se trouve dans les petits poissons, les poissons de petite taille, dans les oléagineux, dans les grains entiers, dans l'avocat, dans les huiles pressées à froid, type colza, caméline, lin, huile d'olive. Et en fait, ce sont toutes cette catégorie qu'on appelle aussi EPA, DHA, qu'on peut aussi retrouver si jamais on n'est pas des grands consommateurs de poissons au quotidien, qu'on peut retrouver dans des compléments alimentaires. Et c'est un des compléments qu'on va vraiment faire attention à avoir pour ne pas être carencé. Mais il ne faut absolument pas, ça c'est un peu mon message, il ne faut absolument pas se dire qu'avec avec une alimentation pauvre en graisse, on va optimiser nos chances. Et quand on parlait du poids tout à l'heure, c'est vrai que oui, il faut faire attention. Les poids pondérales, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas arriver avec trop de masse graisseuse, si on veut. Enfin, la masse graisseuse élevée peut aussi avoir un impact négatif sur la fertilité. Mais ça ne veut pas dire faire un régime très strict où on prive énormément de notre corps, parce qu'autrement, le corps il va se retrouver en carence, dans un état inflammatoire. Et on n'arrivera pas, du coup, à rattraper tout si sur 3, 4 mois, 6 mois, on a envie de. On a un souhait de grossesse.
Alors, tu y viens. C'était un peu la question qui me venait. C'est, ça prend combien de temps, une fois qu'on a réussi à amener tous ces changements, pour que, quelque part, ça fasse effet Et puis, on sent déjà un effet, peut-être déjà sur notre bien-être, mais aussi par rapport à la fertilité.
Alors, normalement, on prend toujours en compte entre 3 et 6 mois. Mm-hmm. C'est un peu les moments où vraiment les ovules peuvent se régénérer, on va dire. Okay. Après, ça dépend vraiment du style de vie que la personne a eu. Parce que même juste avant de penser à concevoir, il faudrait qu'on ait un style de vie adapté. Alors, c'est pour ça aussi que quand je parle d'alimentation, quand je parle de supplémentation, le plus tôt possible, le mieux c'est. Et également, tout ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux perturbateurs endocriniens, les plus tôt, justement, on réduit cette exposition, le mieux sera pour une future conception. Et après, il y en a qui mettent un peu plus de temps, il y en a d'autres qui mettent un peu moins de temps. Ça dépend du style de vie. Encore une fois, ça dépend de la gestion du stress, de l'inflammation qu'il pourrait y avoir, de notre microbiote. Mais si on fait les choses bien, disons qu'entre 3 et 6 mois maximum, on voit quand même une différence. Je sais que quand on est un peu à manque de temps, parce que notre horloge biologique commence à avancer. 3 et 6 mois peuvent être beaucoup, mais il faut vraiment être patient dans ces moments-là. Il faut vraiment se dire qu'on a besoin de un peu faire un reset, de remettre toutes les chances des côtés, et ça va aller si tout est de notre côté, en fait, aussi.
Oui, puis bah, je pense que c'est aussi... parce qu'on donne plein de conseils. Alors... j'imagine qu'il y a plein de gens qui vont se dire « Oui, mais bon, il y a plein de gens qui arrivent à concevoir sans, enfin, en mangeant n'importe quoi, ou comme ça, en n'ayant pas ces styles de vie. » Ce qui est absolument vrai. Donc, c'est vrai que c'est plus de le voir comme un accompagnement et pas forcément où, voilà, tant que j'ai pas fait ça, j'ai aucune chance de concevoir, mais plus se dire « Ben, voilà, j'essaie d'optimiser petit à petit, puis si de ce côté-là, j'arrive à améliorer un peu la nutrition, que là, je baisse un peu mon stress. » Peut-être que je fais un peu plus attention aux produits que j'ai autour de moi.
Il ne faut pas se comparer aussi, parce qu'autrement, ça va rajouter encore un stress plus important, et ce n'est pas ce qu'on cherche. À ce moment-là, on veut vraiment être tranquille. On veut être, on veut préparer les corps, quelque chose de juste magnifique qui après dure encore plus de temps. Et puis, on ne veut pas commencer à comparer. Ça va rajouter vraiment un stress. Alors, c'est important de prendre son temps.
Et c'est vrai que là, alors, on pourrait ouvrir, on ne va pas le faire parce que là, ça rajouterait une heure de podcast. Si on ouvrait le volet psychologique, ben c'est clair que c'est des questions, voilà, la fertilité, la parentalité qui peuvent amener pas mal de choses, pas mal de culpabilité. Si on dit qu'on n'a pas fait juste, qu'on continue à ne pas faire juste sur certains points ou pas de manière optimale. Donc ouais, c'est finalement un peu comme dans tout, arriver à être indulgent, puis faire de son mieux. Puis si faire de son mieux, c'est juste quelques petits changements, ben c'est déjà mieux que rien.
C'est ça.
Là, on a parlé de ce qui était bon à manger. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait vraiment éviter ou limiter au maximum ?
Oui, alors toujours un peu dans la mesure du possible, comme on disait tout à l'heure. C'est vrai que vraiment, quand on parle d'alimentation pro-fertilité, ça va vraiment être plutôt à rajouter, à augmenter, avoir l'alimentation riche en nutriments. Là, ce qu'on va vraiment essayer de limiter, ce sont tous ces aliments qui sont pauvres en nutriments. Du coup, encore une fois, l'alcool, encore une fois, tous les graisses trans saturées, les aliments ultra transformés, les aliments frits très industriels, des produits laitiers dont on connaît pas la provenance, où on ne sait pas s'ils ont rajouté des hormones ou d'autres additifs, d'autres conservateurs. Toute la viande qui peut être un peu mauvaise pour notre cholestérol aussi, les graisses animales, tout ce qui est charcuterie, etc. Bah, on va vraiment essayer de limiter au minimum. Mais encore une fois, il faudrait... à mon avis, avoir toujours un peu un équilibre, c'est dire, voilà, c'est vrai que mon alimentation, 6 jours sur 7, est vraiment une alimentation impeccable, optimale pour ma fertilité, je mange de tout, elle est très colorée. Si de temps en temps, ça arrive de faire des écarts, entre guillemets, ou avoir envie de quelque chose qui est interdit, bah, à ce moment-là, on pourrait se dire, bah, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas, mais si ça arrive, c'est pas si grave, mais voilà, c'est important quand même de sensibiliser, de se dire qu'on n'a pas forcément besoin de ça, de ces aliments-là.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a cette vision, je pense, qui est plutôt à éviter, d'avoir les aliments permis, puis ceux interdits. C'est un peu meilleur départ pour les troubles alimentaires.
Exactement, ça risque de faire partie dans un cercle vicieux où justement ben, on rajoute encore du stress à notre corps. Finalement, on va être attiré par ces aliments qui ne sont pas forcément bons pour notre santé. Et du coup, ben, on ne met pas vraiment les chances de notre côté.
Mmh. Oui, puis c'est quelque chose où je pense... Alors, des fois, ça demande un gros changement au niveau réflexion, comme ça, rien que de comment est-ce qu'on fait nos courses. C'est vrai que j'ai eu une phase où j'avais un peu passé sur Yuka tout ce que je mangeais d'habitude. Et puis, au bout d'un moment, j'étais là, mais en fait, les trois quarts du magasin, même plus, je les considère même plus parce qu'il y a des conservateurs ou des choses qui sont vraiment pas top. Donc, au début, ça met une cassure. Et moi, je me rappelle que je faisais ces changements. Je me disais, mais je ne sais plus quoi manger. Mm-hmm. Et puis, petit à petit, en fait, ça force à s'intéresser un peu plus, puis à découvrir d'autres recettes, d'autres épices aussi. Et puis, finalement, ben, ça amène aussi de la créativité. Mais c'est vrai que c'est des choses où on n'a pas forcément été éduqué ou habitué à ça.
C'est vrai. C'est pour ça que j'ai de plus en plus des patients qui, justement, ont envie d'être guidés par rapport à ça. Et finalement, une fois qu'ils viennent en consultation et qu'ils apprennent qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait choisir, etc. Après, c'est parti pour du long terme et ils peuvent le partager aussi avec les autres. Et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, pour essayer vraiment de partager le plus d'informations possibles pour ceux qui ont cet objectif.
Typiquement, un suivi avec toi, ça prend combien de temps en général ?
Ça dépend. Vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est d'amener le plus près possible de son objectif la personne. Et quand, même si elle n'a pas atteint son objectif, elle se sent prête à continuer toute seule, qu'elle puisse avoir en fait tous les clés en main pour finalement passer à ce de long terme. Et pour moi, chaque suivi, c'est vraiment une remise en question, c'est en parler de comment ça s'est passé le mois, parce que je vois mes patients une fois par mois. Comment les mois s'est déroulé, s'il y a eu des complications, si tout a été fait de manière facile, sans trop de frustration, sans trop de culpabilité, qu'on se sente bien, en fait. Et vraiment, bah, j'ai des patientes que je suis depuis un an et demi, parce qu'elles ont des grands objectifs, ou parce qu'elles se sentent pas, enfin, surtout pas seules, enfin, elles se sentent pas vraiment prêtes à partir sans mon suivi, sans mon aide. Et d'autres qui, en 2-3 mois, c'est bon, elles ont appris. Elles ont fait la paix avec l'alimentation, comme j'ai dit moi. Et elles peuvent partir à leur objectif.
Oui, puis c'est vrai que je pense que ça dépend de plein de variables, de comment on apprend. C'est vrai qu'il y a des personnes, je l'espère, qui déjà, par exemple avec ce podcast, vont se dire « Ah bah tiens, je vais pouvoir changer plein de choses. » Et puis... d'autres aussi qui auront besoin d'être plus guidés parce que c'est vrai qu'on peut être submergé un peu d'infos. C'est là où c'est intéressant d'avoir une professionnelle qui est là pour prendre les choses les unes après les autres et puis guider pas à pas.
Exactement.
Ça, je trouve top.
Et surtout quelque chose, faisant quelque chose d'adapté. Parce que c'est vrai que toutes les choses qu'on entend ou les plans alimentaires qui a fonctionné pour l'ami de l'ami, il n'est pas forcément adapté à nos besoins. Et même si l'objectif finalement est le même, par exemple, si quelqu'un a juste l'objectif de perdre du poids, eh ben, il faut vraiment travailler de manière personnalisée. Ce qui convient à moi, ça ne te conviendra pas à toi, Julien. Et du coup, il faudrait vraiment trouver ce qu'il nous faut de manière individuelle.
Je saute un peu de question en question, mais tu parlais des protéines avant, notamment végétales. Et là, moi, la question qui me vient, c'est par rapport au soja, puis tous les produits tirés du soja, que ce soit le tofu ou autre. Qu'est-ce qu'il en est de ça?
C'est vrai que par rapport à ça, on entend vraiment pas mal de choses. Les dernières études, elles sont un peu controversées. Ce qui est important de savoir, c'est que les sojas contiennent des substances qui sont appelées isoflavones. Ce sont des phytoestrogènes et en fait, ils pourraient mimer vraiment les estrogènes féminins. Du coup, ils pourraient se lier à des récepteurs qui ne sont pas justement pour ça et ils pourraient engendrer un dérèglement hormonal. Par contre, vraiment, je dirais depuis 5 ou 6 ans, même plus, ils ont vraiment étudié le sujet. Et il y a des universités, des laboratoires qui disent, voilà, les soja, ils peuvent grâce à ça, grâce à cette isoflavone, avoir un impact très positif, et d'autres qui disent ah non, vaut mieux faire attention. Okay. Moi, dans ces cas-là, quand je vois encore des choses assez controversées, j'ai dit toujours, il faut juste pas exagérer. Ouais. On va, par exemple, quelqu'un qui a une alimentation déjà de base végétale, ça veut pas forcément dire qu'il doit mettre de côté tous les tofu, mais il va, par exemple, choisir un soja fermenté de bonne qualité. Et okay. juste pas exagérer, en fait. Parce que c'est comme on disait tout à l'heure par rapport à l'équilibre, même des choses qui pourraient éventuellement faire moins bien, si c'est dans une petite quantité, ça va pas forcément avoir un impact. Et ça, un peu pour tout.
Ou à l'inverse, justement, des choses qui sont bonnes pour la santé, si on se dit « Ah, ça, c'est l'aliment, je mange plus que ça ben, », on va perdre en diversité et puis on va perdre aussi toutes ces interactions.
C'est sûr.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faudrait peut-être éviter? Des aliments ou...
On a parlé tout à l'heure de l'importance des acides gras. Oui. Et c'est vrai que j'ai mentionné les petits poissons gras qui sont vraiment l'aliment un peu par excellence, qui a vraiment cette bonne graisse. Mm-hmm. Mais c'est vrai que quand on parle aussi des poissons, moi j'ai beaucoup de patients qui me disent « Ah mais moi je mange du saumon, du thon de manière régulière. Mm-hmm. » Alors c'est vrai que ça c'est un aliment aussi pareil, un petit peu... il faudrait faire attention parce que c'est vrai que tous les poissons des grandes tailles, type les saumons, les thons notamment, bah, ils peuvent être aussi un peu plus riche en mercure et du coup pourrait aussi là avoir un effet perturbateur endocrinien sur notre corps. Alors encore une fois, on va oui les consommer, mais par exemple pas plus qu'une fois par semaine et on va plutôt vraiment privilégier toutes les autres sources des graisses, notamment voilà les avocats, si on peut du coup les petits poissons, les oléagineux, les graines, les huiles qu'on peut vraiment avoir un peu partout.
C'est un truc qui me marque, puis que je trouve qui simplifie beaucoup. Alors, on a parlé des couleurs dans l'assiette. Il y a aussi le côté de l'étiquette. Finalement, des aliments où il n'y a pas d'étiquette, simplement parce qu'on voit déjà en regardant ce qu'il y a dedans, c'est, j'imagine, à privilégier par rapport à des aliments où on voit qu'il y a un paragraphe entier de mots qu'on ne connaît pas forcément.
C'est ça. Donc ça, c'est vraiment un peu la, petite, la première ligne guide que j'explique quand il faut regarder des étiquettes. Vraiment, les moins d'aliments, les moins d'ingrédients, pardon, on a sur cette étiquette, les mieux c'est. Et aussi... bien voir un peu qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que c'est vrai que dans toutes les étiquettes, les ingrédients sont mis en ordre croissant. Du coup, non, décroissant, pardon. Okay. Du coup, c'est vrai que si on voit... là, on ne parle pas vraiment de fruits, des légumes ou autres, mais dans un produit qui contient de la viande ou voilà, des bons aliments. Si on voit qu'il y a du sucre imprimé et qu'ensuite, juste au troisième, quatrième partie de l'étiquette, il y a les produits qui est devant nos yeux. Là, il y a un petit souci. Alors, il faudrait faire attention. Il faudrait vraiment que les premières deux ingrédients soient ce qu'on voit. Et qu'ensuite les restes, encore une fois, une courte liste, soit ce qu'ils mettent pour la conservation.
Mmh. Ok. Là, alors on a parlé de tout ce qu'on peut trouver dans l'assiette, et puis il y a ensuite peut-être les compléments. Quand est-ce qu'on sait qu'on a besoin de compléments alimentaires, parce que ce qu'on a dans l'assiette ne suffit pas forcément. On entend aussi, alors, je ne sais pas à quel point justement ça se vérifie, mais... j'entends souvent que typiquement les fruits, les légumes actuels auraient beaucoup moins de nutriments qu'à l'époque. Enfin, voilà. Comment est-ce qu'on sait que là, ça vaudrait la peine d'aller vers des compléments?
C'est ça. Malheureusement, c'est vrai que l'alimentation, les aliments qu'on a aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes qu'il y a 20, 30 ans. Du coup, déjà, il faudrait se méfier un tout petit peu. C'est dire, est-ce que même si je consomme tel aliment qui m'apporte tel nutriment de manière régulière, est-ce que je ne suis pas carencée? Est-ce que vraiment je suis en train de donner à mon corps tout ce dont il a besoin? Mm-hmm. Alors, c'est vrai que les compléments alimentaires sont là pour nous aider dans ça, pour vraiment mettre toutes les chances de côté et être sûr qu'on n'avait pas des carences. Et après, bien évidemment, on pourrait faire des bilans en micronutrition ou des bilans aussi hormonaux pour voir si tout se passe bien. Et au cas où, du coup, juste réaugmenter un tout petit peu les valeurs de manière naturelle ou avec des compléments. Alors, c'est vrai que quand je pense à des compléments qu'on ne sait pas trop, par exemple l'acide folique, c'est vrai que c'est un complément qu'on doit prendre bien avant la conception. Mmh. Et par exemple, même la vitamine D, je pense à ça, qu'on pourrait ne pas avoir assez. Alors, c'est vrai que là, on va faire attention. Ou tout simplement, par exemple, quelqu'un qui a une alimentation complètement végétale, bah, il va devoir se complémenter en vitamine B12 parce qu'on sait qu'on la retrouve surtout et souvent dans les produits animaux. Et alors là, voilà, on sait qu'on doit aller chercher un peu plus loin en micronutrition.
Là, on a parlé des compléments qu'on pouvait prendre pour optimiser la santé hormonale notamment. Mais s'il y a des gens qui ont déjà rentré dans une pharmacie, qui sont allés au rayon complément alimentaire, en fait, on se retrouve face à un rayon énorme. Comment est-ce qu'on fait pour choisir en fait, le bon complément?
Alors, c'est vrai que tout d'abord, il ne faut pas avoir peur de demander un conseil. Du coup, si on a besoin de nutritionniste ou même un autre pharmacien, on peut vraiment demander les meilleures formes, les formes plus biodisponibles, en fait. Pour tout ce qui est acide folique, par exemple, on va choisir la forme méthylée. C'est la meilleure, la mieux absorbée par notre corps. Et notamment, par exemple, dans l'acide folique, il y a soit les symboles, soit la nomenclature 4 folique. Pour les oméga, notamment, on va choisir, comme on disait tout à l'heure, les EPA, DHA. Et aussi, pour plein d'autres nutriments, on va vraiment choisir les meilleures formes. Du coup, forme méthylée, les glycinates, c'est tout.
Et ça, ces bilans, que ce soit hormonaux ou en micronutrition, ça se fait comment?
Il y a des prises de sang, tout simplement. Du coup, on peut vraiment aller rechercher vitamine par vitamine, minéral par minéral. Du coup, ça nous donne vraiment des bilans très complets. Moi, personnellement, en consultation, je fais aussi de la biorésonance, mais ça s'appelle spectrophotométrie. C'est avec un outil qui va justement mesurer la résonance vibratoire des éléments à l'intérieur de notre corps. Okay. C'est pas invasif. Du coup, ça fonctionne avec justement la lumière. C'est une méthode assez ancienne, en vrai. Okay. Mais là, ça a ressorti depuis quelques années et c'est quand même assez précis. Du coup, moi, si je peux, je vais le proposer. Et en retrouvant cette résonance vibratoire de chaque élément chimique, il va nous donner aussi un bilan, grâce à des algorithmes, un bilan très précis sur tout ce qui est minéraux, vitamines, métaux lourds, antioxydants. Du coup, c'est intéressant. De plus en plus, on a pas mal de choses qu'on peut faire pour aller chercher plus loin.
Ok. Et au niveau hormonal, c'est aussi ces méthodes-là que tu utilises ou...
Alors non, pas vraiment. C'est vrai que pour une prise de sang hormonale, on va vraiment plutôt se retourner vers un laboratoire qui nous fait une prise de sang spécifique. Mmh. Normalement, ce sont des prises de sang qui se font entre les 3e et 5e jours des règles. Du coup, vraiment très spécifique pour pouvoir voir les hormones où elles sont. Et à ce moment-là, c'est vrai que si on a telle ou telle hormone qui est déséquilibrée, et ben là, avec certains aliments qui peuvent améliorer ou augmenter ou baisser les taux, on va y travailler, on va les rajouter ainsi qu'avec des compléments.
Tu parlais au tout début que, alors surprise, la conception c'est un projet de couple. Alors là, on a parlé pas mal peut-être de la femme, mais alors je sais pas, peut-être c'est pas spécifique, mais typiquement l'acide folique ou comme ça, c'est plus les femmes que ça concerne. Est-ce qu'il y a des différences justement pour la femme ou l'homme qui doivent être pris en compte?
Oui. Alors déjà, vraiment, je vais t'apprendre quelque chose. C'est vrai que l'acide folique, il faudrait aussi que l'homme le prenne. Okay. Alors ça, c'est une chose que pas tout le monde sait, mais c'est vrai que souvent, on peut avoir des carences et c'est vrai que si l'homme et la femme le prennent, ils augmentent encore plus leurs chances. Du coup, c'est ça en fait, c'est l'idée reçue, comme tu dis tout à l'heure, de la femme qui doit faire attention à son corps parce que c'est quand même elle la porteuse de l'enfant et puis du coup, qu'elle doit faire attention vraiment à son stress, à son corps, à son activité physique. Mais non, comme on disait tout à l'heure, il y a bien aussi une partie que l'homme doit faire. Alors notamment, c'est vrai qu'il y a un niveau complément. Ça serait toujours bien aussi de faire une prise de sang ou un spermogramme aussi pour voir un peu la qualité, etc. Mais c'est important qu'ils se supplémentent un peu comme la femme et surtout, par exemple, qu'ils prennent des compléments antioxydants. Notamment, il y a un complément que j'aime beaucoup, c'est la coenzyme Q10. Et c'est un complément qu'on utilise chez la femme. Du coup, il est très antioxydant, il est très intéressant au niveau ovarien et tout ça. Mais pour l'homme aussi, il va vraiment avoir un impact positif sur les spermatozoïdes. Et alors, on le sépare tout le temps, mais c'est vrai que c'est quand on ajoute ça à notre alimentation. Plutôt, je dirais, un complément parce que la coenzyme Q10, on ne retrouve pas énormément dans les aliments. Alors là, on va vraiment rajouter des chances.
Et c'est à peu près, du coup, les mêmes compléments, finalement, pour hommes que pour femmes.
À peu près. Après, tout ce qui est santé masculine, on va vraiment aller spécifiquement dans les antioxydants, dans les zinc, dans la vitamine E, dans la vitamine A. Après, la femme, elle doit faire un peu plus attention peut-être à son iode, du coup, pour tout ce qui est à niveau thyroïde, son fer. C'est un tout petit peu différent, mais il faudrait que l'homme aussi se complémente.
C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on... Alors, on, non, c'est une généralité, mais j'ai l'impression que c'est justement quand on parle de procréation, ben, comme tu dis, c'est un peu... On se concentre sur la femme qui va porter l'enfant, mais je trouve un peu dommage qu'il n'y ait pas typiquement, je sais pas, un gynéco qui dise, ben, en fait, venez avec votre partenaire et puis on va regarder ça ensemble.
C'est ça. Souvent, le fait que les couples soient ensemble, c'est peut-être quand c'est malheureusement déjà un peu trop tard, dans le sens où... trop tard, pas dans le sens où on ne peut plus concevoir, mais où on a déjà fait des essais et que du coup, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a une infertilité inexpliquée? Est-ce qu'on est un peu en errance médicale? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et alors, c'est là où... Allez, viens toi aussi, les deux, ils vont voir en fait un médecin ou un thérapeute. Et puis, en fait, non, il faudrait vraiment de tout le début se dire, c'est un projet à deux, et bien, il faut qu'on s'y mette à deux. En tout et pour tout. Quand on parlait tout à l'heure des perturbateurs endocriniens, tout ce qu'on fait à niveau de l'environnement, par exemple à la maison, ben, ça a un impact sur les deux personnes. Mmh. Et puis, les choix des aliments, les produits qu'on utilise, ben, faut que ce soit un projet à deux.
Ça, je reviens juste peut-être là-dessus, sur les produits typiquement. Mm-hmm. À quoi est-ce qu'il faut... Quel type de produit il faut se faire gaffe? Je vais peut-être être trop précis comme question. Hein.
Alors, c'est vrai que ce sont tous les produits ménagers, comment dire, tout ce qu'on sent déjà, il y a du toxique. Oui. C'est vrai qu'il faudrait toujours faire attention à les manipuler avec des gants, bien se laver les mains si jamais. Après, tout ce qui peut être peinture aussi, ouais. C'est vrai que dans certains environnements, bah, on peut respirer un peu toute la journée, du coup, moins bien. Les autres produits, type avec énormément de conservateurs, qu'on peut mettre sur notre peau, qu'on peut mettre sur nos cheveux ou sur les ongles aussi. C'est vrai que, oui. Quand, par exemple, voilà, une femme enceinte, elle va faire vraiment beaucoup plus attention à, au vernis qu'elle va utiliser, au shampoing qu'elle va utiliser, les colorations pour les cheveux aussi. Du coup, c'est un peu la même chose qui vaut quand on est à recherche des grossesses. Et c'est un peu des produits aussi qu'on retrouve au quotidien. Tous les métaux lourds, l'aluminium, les cadmium, les mercures, comme on disait tout à l'heure, dans les poissons. Si on a, on utilise aussi des produits, par exemple, à base d'aluminium, comme les déodorants et tout ça. Les poêles, par exemple, pour la cuisine, qui contiennent aussi des produits, justement, qu'on peut justement introduire dans notre corps si, par exemple, la poêle, elle est un tout petit peu scratchée ou rayée. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses auxquelles il faut qu'on fasse attention. La pollution, mais ça, c'est presque impossible de finalement dire bah, « je vais vraiment faire attention à ça ». Mais c'est vrai que tout ça, ça impacte à niveau foie, à niveau hormonal. Et puis, le plus on peut réduire dans notre petit, on va dire, l'exposition, le mieux c'est.
On a fait un sacré tour de la question déjà. J'espère que ceux qui écoutent le podcast, ils prennent des notes en même temps. Parce que ça fait un sacré paquet d'informations. Déjà, merci beaucoup pour ça. Quel serait un peu peut-être le conseil que tu pourrais donner à des gens qui sont soit qui sont en train de penser à un projet d'enfant, soit qui sont en plein dedans à différents stades et avec différentes émotions liées à ça? C'est peut-être quoi que tu peux leur donner comme message pour les encourager?
Alors, je pense comment que si, s'ils sont pas, s'ils sont un tout petit peu perdus, clairement, mon conseil est de demander de l'aide. Il y a énormément de thérapeutes, nutritionnistes, naturopathes, des médecins aussi, justement, qui vont les aider à atteindre cet objectif, en fait. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. On n'est pas seul dans ces projets-là. Et c'est vrai que les plus on prend en main notre santé, de tous les côtés, que ce soit, comme on disait tout à l'heure, nutrition, que ce soit au niveau médical, que ce soit avec de l'activité physique, etc. Et ben là, on est vraiment sûr qu'on peut mettre les chances des côtés et c'est ce qui est le plus important. Du coup, de bien essayer de prendre en main sa santé, de se documenter, de savoir ce qui est bon pour nous, pas qu'à niveau alimentaire, mais par exemple, voilà, les compléments, parce que c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, les mieux, le plus tôt on le prend, les mieux c'est. Et de ne pas oublier qu'on est deux dans ça et qu'on est là pour se supporter.
Mmh. Tu parlais de patience aussi. J'aimerais bien peut-être qu'on termine là-dessus. Tu as parlé de patience dans tout ce processus de changement et de projet de grossesse. De ton expérience, c'est quoi la temporalité à peu près quand les gens viennent te voir d'ici qu'il y a une grossesse qui se déclare?
Ouais. Alors ça dépend vraiment des personnes.
Bien sûr.
Moi, si je pars dans un projet bébé avec une patiente ou avec un couple, c'est vrai que souvent ce sont des couples qui ont déjà essayé à plusieurs reprises de concevoir. Et en fait, elles n'ont malheureusement pas réussi. Alors là, on va vraiment tout reprendre à main dès la base. On va travailler sur leur terrain à niveau santé, à niveau alimentation, à niveau sport, stress et tout ça. Et ça dépend, mais je n'ai qu'un, deux mois, trois mois, du coup, très peu, hein, en fait, finalement. Elle tombe enceinte et tout se passe bien. Soit d'autres qui sont à des parcours, par exemple, FIV, procréation assistée. Parfois, ça peut prendre un peu plus parce que parfois, il y a des pathologies qui sont sous-jacentes. Alors, il faut faire un peu plus attention. Il faut être un peu plus patiente. Mais voilà, ça peut être très rapide. Ça peut prendre un peu plus de temps. Mais moi, je dis toujours, même si on attend une petite année, c'est pas forcément grave, on n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait jusqu'à ces moments-là. On peut toujours encore rajouter des choses pour mettre les chances des côtés. Et puis, il y a toujours justement des médecins qui peuvent proposer des solutions alternatives si jamais on n'arrive pas à concevoir de manière naturelle.
Merci beaucoup. Je te propose qu'on arrête gentiment cette interview, mais merci beaucoup pour la quantité déjà d'informations que tu as pu apporter. Je me réjouis d'avoir les retours sur cet épisode parce que je pense qu'il y aura un gros intérêt. Pour les personnes qui veulent te contacter, venir peut-être en consultation, donc tu as ton cabinet à Genève.
C'est ça.
Lucrezia, elle est aussi partout sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et pas que, parce que je regarde un peu tes stories ces temps, je vois que tu es à la gare de Genève, dans tous les coins.
Mais pas autant que toi, quand même.
Donc, je pense qu'ils n'auront pas trop de problèmes à trouver, oui. Mais je vais mettre aussi toutes les infos dans les infos du podcast. Et puis aussi, là, tu m'as apporté un petit cadeau, je le montre. Ça fait un placement de produit, mais déjà, t'es la première à apporter un cadeau.
Wow.
Donc ça, on va le noter, hein, Claudio. C'est les prochaines interviews, il faudra faire mieux que ça, mieux que le muesli. Donc voilà, si vous voulez un muesli, je ne l'ai pas encore goûté. Mais vous pouvez contacter Laura. Laura, c'est ce que je dis. Laura. Lucrezia. Je vous dis granola.
C'est un ménage, ouais.
Et puis repartir aussi avec ça à la maison.
Pourquoi pas?
Je te remercie beaucoup.
Avec
et
plaisir.
Puis à une prochaine.
Merci. Merci à toi.